VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue à cette édition du jeudi 18 février 2016. À la une ce soir.
Présidentielle en Ouganda, des perturbations signalées à Kampala où Yoweri Museveni brigue un nouveau mandat après 30 ans au pouvoir.
Il y a quelqu'un qui nous appelle disant que Kizza Besigye a été arrêté à Kasangati, là-haut.
Présidentielle au Niger, J-3, la société civile s'oppose au vote par témoignage.
Ces ONG appellent à la mobilisation, notamment par la voix de Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'ONG Alternative Citoyenne.
Le Premier ministre français arrive ce soir à Bamako pour une visite de 48 heures au Mali.
Manuel Valls rencontre le président Ibrahim Boubacar Keïta dès ce soir à son arrivée à Bamako.
Visite historique du président américain à Cuba le mois prochain.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Quelques 15 millions d'Ougandais étaient appelés aux urnes, dont 28 000 bureaux de vote aujourd'hui pour élire leur président, ainsi que 290 députés. Le président sortant Yoweri Museveni, 71 ans et au pouvoir depuis 30 ans, est donné favori. Il fait face à 7 candidats, dont l'opposant historique Kizza Besigye, qu'il avait déjà battu lors des 3 derniers scrutins. Sur l'atmosphère globale en ce jour du vote, on écoute Eric Bagiro-Wubusa, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Kampala.
La sécurité était trop renforcée. La population était présente, mais les élections étaient supposées de commencer à 7h du matin. Il y a quelques sites à 11h sans avoir même les urnes ici à Kampala où la population s'est révoltée contre la police. Mais à Rushere, là où le président de la République de l'Ouganda, Museveni, a voté, c'était quand même bien. Il a dit qu'après les élections, rien ne va s'effacer. À propos des opposants, il a dit que quand il va gagner les élections, personne ne va être dans son gouvernement parce qu'il a dit que quelques partis ne sont pas sérieux. Les résultats préliminaires vont être annoncés par la commission électorale après 48 heures. Il y a quelqu'un qui nous appelle disant que Kizza Besigye a été arrêté à Kasangati, là où nous sommes encore en train de chercher l'information qui est complète.
Eric Bagiro-Wubusa, envoyé spécial de la VOA à Kampala.
Présidentiel au Niger, le vote par témoignage suscite la colère de la société civile. Il est désormais possible de se présenter au bureau de vote sans pièce d'identité, à condition que deux personnes puissent attester de l'identité de l'électeur. La mesure annoncée hier, alors que le scrutin est prévu dimanche. Nicolas Pinault, notre envoyé spécial à Niamey.
Oui, la société civile nigérienne a dénoncé, je cite, « une décision illégale et inacceptable de la part de la Commission électorale nationale indépendante ». Vous le savez, la CENI qui a autorisé hier le vote par témoignage, une mesure qui concerne plus d'un million d'électeurs sur les 7,5 millions que compte le pays. Réunis au sein du collectif Résistance citoyenne, ces ONG appellent à la mobilisation, notamment par la voix de Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'ONG Alternative Citoyenne. Une mobilisation en deux temps. Tout d'abord, lors du scrutin de dimanche, dans les bureaux de vote, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éventuelle fraude. Et peut-être, après le vote, s'il y a contestation électorale avec des manifestations. Vous le voyez, le débat n'est pas clos sur ce vote par témoignage qui divise profondément au Niger. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle du 20 mars, a reçu une convocation des services de sécurité à propos d'une affaire non précisée. L'ancien chef d'état-major et conseiller du président Denis Sassou Nguesso doit donc se présenter demain à la direction générale de la surveillance du territoire. Mais d'ores et déjà, il fait savoir qu'il ne s'y rendra pas. Il compte plutôt envoyer son avocat. Ne manquez pas l'interview du général Jean-Marie Michel Mokoko un peu plus tard dans cette émission.
Accusation de violence sexuelle visant des casques bleus en République centrafricaine. Kinshasa annonce son intention d'enquêter en vue de poursuites sur de nouvelles allégations concernant des soldats congolais opérant dans le cadre de la MINUSCA, la mission onusienne en RCA. Le ministre congolais de la Justice entend envoyer 3 magistrats militaires sur place. Les casques bleus concernés sont accusés d'avoir agressé sexuellement 4 enfants vivant dans un camp de déplacés en RCA. C'était entre 2014 et 2015, selon un porte-parole de l'ONU.
Le Premier ministre français arrive ce soir à Bamako pour une visite de 48 heures au Mali, séjour au cours duquel Manuel Valls échangera avec les autorités maliennes sur la lutte contre le terrorisme. Il se rendra aussi à Gao à la rencontre des troupes françaises. Kassim Traoré.
Le Premier ministre français vient s'assurer de la permanence du soutien de la France au Mali, pays qui a été touché par des attaques dont la plus meurtrière a fait 22 morts le 20 novembre 2015. Manuel Valls rencontre le président Ibrahim Boubacar Keïta dès ce soir à son arrivée à Bamako. Valls exprimera sa reconnaissance à tous ceux, membres des forces de sécurité comme des services de secours, civils, représentants de la France et de la communauté internationale qui ont participé à la gestion de la crise et qui continue de s'investir au quotidien pour porter assistance au gouvernement et au peuple malien. Côté militaire, le Premier ministre français se rendra dans la ville de Gao, où sont stationnées des troupes françaises de l'opération Barkhane engagées contre les groupes armés islamistes au Sahel. Le Premier ministre français rencontrera à Bamako le même vendredi le commandement de la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EITM Mali. Il aura aussi un entretien avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mamadou Saleh Anadif, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Ghana, un accident de la route fait au moins 53 morts. La collision entre un bus de passagers et un camion s'est produite entre Accra et Tamale, d'après la police ghanéenne.
Lutte contre Al-Shabaab en Somalie, l'armée kenyane affirme avoir tué le chef des renseignements de l'organisation djihadiste somalienne, Mahad Karate, dont la tête avait été mise à prix à 5 millions de dollars par les États-Unis, a été tué lors d'une importante frappe aérienne le 8 février dans le sud de la Somalie. Selon l'armée kenyane, 10 commandants et 42 recrues qui venaient tout juste de finir leur période d'entraînement ont également été tués.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a confirmé qu'il visitera Cuba le mois prochain pour faire progresser les relations entre les deux nations et promouvoir les efforts susceptibles d'améliorer les conditions de vie du peuple cubain. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Cette visite historique de deux jours, prévue à partir du 21 mars, sera la première d'un président américain à La Havane depuis 1928. Monsieur Obama s'est engagé dans un tweet à soulever avec les dirigeants de l'île communiste les droits de l'homme que l'Amérique défendra toujours à travers le monde. Des rencontres sont prévues avec des membres de la société civile cubaine. Pour la Maison-Blanche, cette visite est un autre exemple de l'engagement du président à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations américano-cubaines et à rapprocher les deux peuples à travers l'accroissement des voyages, du commerce et de l'accès à l'information. Depuis le dégel de décembre 2014, les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques et rouvert leurs ambassades à Washington et à La Havane. Cuba a été biffé de la liste des États qui appuient le terrorisme. Monsieur Obama et son homologue Raúl Castro, qui se sont rencontrés à deux reprises, se parlent régulièrement. Mais le Congrès refuse de lever l'embargo commercial en place depuis des décennies. Les républicains, en particulier les candidats à la présidence Marco Rubio et Ted Cruz, ont déjà critiqué la prochaine visite de Monsieur Obama à Cuba.
Les plus hauts dirigeants européens ont exprimé aujourd'hui leur confiance et leur intérêt quant au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Juste avant un sommet de deux jours à Bruxelles, le président de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré, nous citons, « Je suis tout à fait confiant que nous parviendrons à un accord lors de ce Conseil. Il nous faut résoudre un certain nombre de problèmes, mais je reste convaincu que Londres sera un membre actif et constructif au sein de l'Union », a déclaré Jean-Claude Juncker.
Et puis, cette piste autrichienne dans les enquêtes sur les attentats de Paris, le parquet de Vienne a annoncé qu'il mène des investigations très complexes concernant deux Algériens, un Pakistanais et un Marocain, arrêtés en décembre à Salzbourg parmi des migrants et soupçonnés d'être liés aux auteurs des attentats. Tous les quatre sont des membres présumés de l'organisation terroriste État islamique et ils se trouvent en détention provisoire, précise le parquet. Les tueries du 13 novembre, rappelons-le, ont fait au moins 130 morts dans la capitale française.
Le ministre saoudien des Affaires étrangères a affirmé que les opérations militaires de la coalition arabe au Yémen se poursuivront jusqu'à ce que le gouvernement légitime soit rétabli. Dans un entretien avec l'AFP, Adel Al-Jubeir soutient que son pays, qui commande les opérations de la coalition arabe au Yémen, n'était pas enlisé dans ce pays, malgré la résistance des rebelles chiites houthis qui contrôlent toujours la capitale Sanaa et une partie du nord du pays. Les Nations Unies ont jusqu'à présent échoué dans leurs efforts de trouver une solution négociée à la crise au Yémen.
L'Arabie Saoudite n'est pas prête à réduire sa production de pétrole pour soutenir les prix. C'est ce qu'a déclaré par ailleurs à l'AFP le ministre saoudien des Affaires étrangères. Abel Al-Jubeir a ajouté que les prix du brut, qui ont perdu 70% de leur valeur depuis la mi-2014, seront déterminés par l'offre et la demande et par les forces du marché. L'Arabie Saoudite et la Russie avaient annoncé mardi, lors d'une réunion à Doha avec le Venezuela et le Qatar, leur accord pour geler sous condition leur production pétrolière à leur niveau de janvier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a inauguré hier la dernière extension de la centrale thermique de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. D'après le magazine Jeune Afrique, cette extension augmente de 70% la capacité installée de Cyprel qui passe de 321 MW à 556 MW, ce qui à l'année porte la production d'électricité supplémentaire à 1600 GWh et doit permettre d'alimenter 120 000 foyers ou 1,2 million de personnes. Au Cameroun, Ecobank se lance dans la finance islamique. Selon financialafrique.com, l'objectif poursuivi par Ecobank est d'améliorer ses prestations, mais également élargir ses parts dans le marché camerounais. Ainsi, le groupe bancaire panafricain, à travers sa filiale au Cameroun, a proposé à ses clients le compte d'épargne Moutaraba. Ce format de compte obéit aux exigences de la finance islamique. Au Sénégal, le Salon international de l'habitat se tiendra les 3, 4 et 5 mars prochains à Dakar. Organisé par le ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie du Sénégal, ce salon aura pour thème principal la contribution du plan Sénégal émergent à l'accès au logement.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John.
Passons tout de suite au sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors, en football, Drogba apporte son soutien à son petit frère, Aurier.
C'est dans une vidéo sur Internet que l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire a fait part hier de son soutien à son compatriote Serge Aurier, comme vous le dites, Gabi, dans la tourmente pour avoir insulté son entraîneur au Paris Saint-Germain, Laurent Blanc. Didier Drogba estimait que l'erreur est humaine.
Alors, affaire de chantage à la sextape, première victoire judiciaire pour Benzema.
Le footballeur français a été autorisé par la justice à côtoyer son coéquipier des Bleus, Mathieu Valbuena. Ceci pourrait permettre à l'attaquant vedette de l'équipe de France de jouer l'Euro 2016. Le parquet a immédiatement interjeté appel, mais cet appel, qui sera examiné le 4 mars, n'est pas suspensif.
Parlons de la présidence de la FIFA. L'Allemagne ne va pas voter pour le Cheikh Salman.
Oui, qui est favori à présider la FIFA. L'élection se tient le 26 février et le président de la Fédération allemande de football l'a déclaré aujourd'hui en raison du rôle présumé de Cheikh Salman dans la répression à Bahreïn.
Il faut dire que Salman a l'appui de l'Asie et probablement de l'Afrique, donc il a beaucoup de chance.
Attendons voir.
Un fils de Lamine Diack recherché pour corruption, entendu par la police au Sénégal.
Oui, c'est le fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, qui a été entendu pendant plus de 6 heures par la police à Dakar. Papa Massata Diack est recherché en France pour corruption, mais son audition d'hier n'a pas de lien avec le mandat d'arrêt français à son encontre.
Dopage. Sébastien Coe prêt à bannir l'athlétisme kényan des Jeux de Rio.
Le président de la Fédération internationale d'athlétisme a rappelé aujourd'hui que son instance n'hésiterait pas à interdire des Jeux olympiques les nations qui trichent avec le dopage, notamment le Kenya, si cela est avéré. Ce n'est pas du bluff, Gabi, car la Russie est depuis suspendue aux prochains Jeux de Rio, étant soumise à un certain nombre de mesures à prendre sans délai dans la lutte contre le dopage.
Et Thiago Splitter ne sera peut-être pas à Rio.
L'international brésilien va se faire opérer de la hanche droite et sera absent jusqu'à la fin de la saison NBA, soit 8 mois. Il ne participera pas donc aux Jeux olympiques 2016 dans son propre pays.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Congo-Brazzaville.
Pour parler du général Jean-Marie Michel Mokoko, il est candidat à la présidentielle du 20 mars. Il a reçu une convocation des services de sécurité à propos d'une affaire non précisée. L'ancien chef d'état-major et ancien conseiller du président Denis Sassou Nguesso doit donc se rendre demain à la direction générale de la surveillance du territoire. Mais d'ores et déjà, il a fait savoir qu'il ne s'y rendra pas. Il s'explique au micro d'Idriss Fall.
Oui, j'ai reçu une convocation de la direction générale de la sécurité du territoire au motif qu'il s'agit d'une affaire me concernant. Alors, je ne compte pas m'y rendre. D'abord parce que, même si je suis mis en disponibilité, je dépends du ministère de la Défense. Et pour ce genre de problème, c'est la gendarmerie qui devrait pouvoir me convoquer. Deuxièmement, je vais faire prévaloir par une lettre que je vais adresser à cet officier de police qui m'a convoqué. Je vais faire prévaloir mon immunité parce que je suis encore représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Je ne vois pas pourquoi on devrait pouvoir me convoquer dans une affaire qui relève d'une procédure qui n'est pas encore identifiée. Mais dans tous les cas, étant dans une situation, dans un statut de diplomate, je ne répondrai à aucune convocation de ce genre.
Est-ce que ce serait lié à cette vidéo-là qui a fait fureur à Brazzaville, vous montrant en train de préparer un prétendu coup d'État?
Il me semble que ce soit peut-être ça, puisque cette vidéo fait le tour de la planète. Vous êtes un homme des médias et vous avez pu peut-être en mesurer le sérieux de cette vidéo. D'après mes informations, il s'agirait d'une vidéo qui a été tirée des télés d'une procédure qui est pendante en France, ce qui pose déjà un autre problème parce que la vidéo originelle est certainement celle qui traite d'un coup d'État qui serait en préparation au niveau d'un pays africain. Et il semble que des gens plus cités que moi aient découvert cette vidéo et puis bon, ont mis en ligne les deux versions de cette vidéo. Alors manifestement, la mienne est une vidéo qui a été pratiquée. Je ne pense pas que dans une procédure régulière, que ce soit un élément recevable au niveau d'une procédure normale. Nous sommes au Congo et tout est possible.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle au Congo-Brazzaville.
La sécurité est grandissante au Burkina, en ville comme en campagne. Les bandits de grand chemin font la loi en dépossédant les honnêtes citoyens de leurs biens. Pour y remédier, ces derniers ont créé des groupes d'autodéfense ou Kogle Wogo. Mais l'avènement de ces organisations ne fait pas l'unanimité dans l'opinion. Nous écoutons la correspondance de Zoumana Wanogo de Ouagadougou.
Kogle Wogo, ce mot traduit littéralement de la langue nationale morée, signifie sécuriser la brousse. Face à l'insécurité grandissante au Faso, il s'est créé dans plusieurs régions du Burkina des Kogle Wogo pour traquer les bandits de grand chemin, mais avec des méthodes propres à eux. Toute chose qui inquiète certaines personnes, suivant des avis.
C'est une sorte de police dans la police et vraiment, moi je suis contre leur existence dans notre pays, on n'en a pas besoin. Ce sont des gens qui sont là, ils agissent selon eux. Ils ne cherchent pas à aller en profondeur avant de commettre leur action. Vu le dernier cas qui s'est produit du jeune Madi Kanazoué, il a été brutalisé. Le chef des Kogle Wogo a reconnu même que ce jeune a été brutalisé. Une telle association ne peut pas venir surgir et faire justice elle-même.
On ne saurait confier la sécurité du territoire à des groupes, soit-il des groupes d'autodéfense. Et je pense que les actes que les Kogle Wogo ont posés ces derniers temps-là ne sont pas de nature rassurante. Saisir des gens et aller les battre à mort, je pense que vraiment le Burkina n'a pas besoin de ça.
À côté de ces anti-Kogle Wogo, il y a ceux qui applaudissent à grands cris leur existence. on les écoute.
Pour moi, les Kolokoro, je crois que c'est une très bonne affaire. Sur la route de mon village, les braquages ont diminué grâce aux Kolokoro qui sont dans les alentours parce qu'ils vivent en brousse. Je vois que tout a diminué, même les voleurs de moutons, des bœufs dans les périphéries, là, tout a diminué actuellement. Et c'est grâce à eux. Ils se connaissent et savent qui est qui. Je confirme également que c'est grâce à eux qu'on a pu arrêter les anciens de RSP qui étaient venus attaquer la foudrière. Là.
Sincèrement, le Kolokoro est venu nous sauver. Depuis que le Kolokoro existe, ça fait de bonnes affaires. Moi, particulièrement, mon grand frère a eu les victimes avec des voleurs et on l'a tabassé. À l'heure actuelle, si ce n'est pas quelqu'un qui lui donne quelque chose, on ne peut même pas cultiver et on ne peut rien faire. Il y avait plus de 100 moutons qui sont venus les tabasser, tout ramasser. Donc, sincèrement, le Kolokoro nous a trop arrangé.
Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a fait une sortie pour affirmer leur utilité et leur coopération avec les forces de défense et de sécurité. Voilà ce qui a poussé notre confrère Amidou Idogo du journal Les Échos du Faso à prendre sa plume pour faire un éditorial qui prend à contre-pied le ministre de la Sécurité. Écoutons le confrère Amidou Idogo.
Tout le monde est d'accord qu'ils sont utiles, mais le ministre de la Sécurité a dit qu'ils coopèrent. Non, ils ne coopèrent pas puisque nous, les journalistes, les hôteliers, les transporteurs auxquels on demande de coopérer, nous coopérons si nous avons des indices. Mais les Kokoloué ne coopèrent pas. Les Kokoloué agissent à leur guise.
Zoumanabo Nogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Cap sur le Tchad, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamat Bachir, s'est exprimé aujourd'hui sur les remous sociaux de ces derniers jours et les manifestations pacifiques dans la capitale tchadienne. On fait le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Nous mettons en garde toute personne qui tenterait de remettre en cause la sécurité chèrement acquise. Le festival du désordre est terminé.
Cette mise en garde du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamat Bachir, fait suite à la marche pacifique des maîtres communautaires ce jeudi matin pour revendiquer, tenez-vous bien, 20 mois d'arriérés de leur subside et le sit-in des ex-travailleurs de TCC Tchad Cameroun Construction devant le bureau de SO Tchad pour exiger le versement des heures supplémentaires qui s'élèvent à 12,4 milliards de francs CFA pour 413 ex-agents de TCC qui ont travaillé sur le champ du pétrole de Doba au sud du Tchad de 2001 à 2004. Manifestation qui a perturbé les cours dans les établissements scolaires de la capitale. Ali Hassan Zakaria est le président de l'association des ex-travailleurs de TCC.
Les heures supplémentaires qu'on a gagnées à la justice à 100%, nous revendiquons cela et nous revendiquons, c'est-à-dire la réinsertion que la Banque mondiale a versée à ESSO et ESSO l'a versée à l'État. Et depuis lors, on ne sait même pas, c'est-à-dire où est parti cet argent. À chaque fois quand on veut faire le sit-in, la sécurité, ils viennent pour nous perturber. Depuis quand dans cet état-là, il faut trouver une autorisation d'abord pour faire le sit-in. D'ailleurs, même ça ne se donne pas. Les polices, eux-mêmes, ils ont compris que nous sommes en train de revendiquer notre droit. Ils ne nous ont pas brutalisés.
Si les ex-travailleurs de TCC n'ont pas été brutalisés par la police, les maîtres communautaires, quant à eux, ont été arrosés par des gaz lacrymogènes faisant quelques blessés et des interpellations. Réaction du coordonnateur national des maîtres communautaires du Tchad, Balayangue Jonathan.
La force de l'ordre nous ont accueillis avec les coups de lacrymogènes et des balles réelles et dans lesquelles plusieurs de nos amis ont reçu des blessures. 4 blessés et 4 arrêtés et après avoir interrogé, ils ont été relâchés. Il y a le commissaire du 3e arrondissement qui est venu stopper la marche et il nous a pris dans sa voiture. Nous sommes partis après l'interrogation. Ils ont dit de leur soumettre cette situation. On les a soumis effectivement notre point de revendication et on les a aussi donné 6 jours francs. Si rien n'est fait dessus, nous allons toujours continuer avec la marche pour leur prouver effectivement que nous sommes mécontents devant cette situation.
Au cours de sa communication ce jeudi, le ministre de la Sécurité publique est dur.
Ces pratiques inadmissibles n'ont que trop duré et doivent cesser immédiatement. Aucun attroupement ne doit avoir lieu sans autorisation préalable du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.
André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Cyprel, le plus grand producteur privé d'électricité de Côte d'Ivoire, a achevé hier un projet qui va renforcer la capacité de production des pays d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux exportateurs d'électricité de la région. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Émilie Yob, présenté ici par Maëlys Segel.
Cyprel vient d'achever la dernière phase d'un projet de 382 millions de dollars dans la capitale économique Abidjan. La capacité de production totale de l'entreprise va ainsi augmenter d'environ 70%, soit à 556 MW, ce qui correspond à un peu plus d'un quart de la production nationale du pays et rendant ainsi Cyprel le plus grand producteur privé d'électricité du pays. Lors de la cérémonie de lancement, le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa satisfaction car son pays se rapproche de son objectif de 2000 MW de production d'ici fin 2016.
Je suis tellement fier de pouvoir dire à nos concitoyens que non seulement nous avons un peu plus d'électricité en abondance, mais nous avons également de l'électricité de bonne qualité pour les Ivoiriens, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et pour bien sûr être disponible pour aider les pays voisins.
La Côte d'Ivoire est l'un des principaux exportateurs d'électricité en Afrique de l'Ouest. Elle approvisionne le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Adama Toungara, le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, explique comment son gouvernement a massivement investi pour augmenter sa production d'électricité pour faire face à une demande croissante.
La forte croissance de la demande en électricité, estimée à 10% par an, induite par la forte croissance économique, nous a conduit à initier également plusieurs autres projets de construction d'ouvrages, de production.
La Banque mondiale affirme que la pénurie d'électricité en Afrique fait perdre chaque année plus de 2 points au produit intérieur brut du continent. Au Nigeria, cette perte a été de près de 4 points par an à cause du manque de courant.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ma chérie, allez lolo. Ma fraîche, allez lolo. Mon goma, allez lolo. Ma nana, allez lolo. Ma gadi, allez lolo. Djarabi, allez lolo. Ma go, allez lolo. Ma coro, allez lolo.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde avec l'assistance de Keith Holmes à la console. Présentation Morgane Guériaké chez Rubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos et vidéos. Posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.